Un roi, une dame, un valet, une simple soirée carte entre amis? Eh bien, au Moyen-Âge, cela suffisait à affoler les moralistes. Et tout commence avec un moine très observateur, l'œil affûté sous la capuche. Nous sommes en 1377. Dans un couvent de Fribourg, en Allemagne, un frère dominicain du nom de Johannes von Rheinfelden rédige un traité inattendu. Il y analyse un nouveau jeu arrivé sans doute par les routes marchandes d'Italie. Il décrit des cartes ornées de rois, cavaliers, valets et symboles colorés. On est encore loin des cartes Pokémon. Pour lui, chaque figure reflète un ordre social. Et surtout, il constate que ce jeu mystérieux gagne l'Europe à une vitesse folle. Et il a raison. Les cartes débarquent dans les tavernes où les soldats misent un peu trop, dans les tripots où les disputes éclatent, puis jusque dans les cours royales où l'on commande des jeux luxueux peints à la main. Devant cet engouement, certaines villes tentent même de les interdire. Trop de paris, trop de distractions, trop de tentations.
Jouer avec excès comporte des risques.
Au fil de leur diffusion, les cartes changent de visage. En Italie, on garde les enseignes latines. Bâton, denier, épée. Du sobre, du classique, du très sérieux, quoi. En Allemagne, les chênes, les glands et les feuilles remplacent tout. Un jeu très nature, presque écolo. En France, on invente les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Un coup de génie, simple, efficace, exportable, un standard mondial.
Tu me parles, cœur.
Strasbourg devient d'ailleurs un important centre de production de cartes à jouer dès le 15e siècle, Cocorico. Aujourd'hui, il se vend plus de 3 milliards de jeux de cartes par an dans le monde. Belote, rebelote et 10 de terre. Amen.